la médiathèque Place Saint-Roch à Cléon, qui est donc une exposition de portraits. Donc l'ensemble des entretiens que j'ai réalisés vont faire l'objet d'un portrait, photo et une synthèse des propos tenus, qui souvent suscite la satisfaction des concernés. C'est un plaisir d'avoir un retour positif comme celui-ci. Ensuite, sur le support final, il y a un rapport scientifique et puis probablement aussi un autre support livresque probablement autour de ce projet qui sera mis en accès, et c'est en cours de réflexion avec les différents acteurs concernés.
Et par rapport au travail qu'a mené Serge Tipa, vous dites donc expliquer adopter une démarche scientifique. Dans quelle mesure est-ce que cette démarche, ces principes de la méthode scientifique sociologique rendent-elles plus solide votre travail? Au contraire, est-ce que ça peut aussi susciter des difficultés, je ne sais pas, qui pourraient gêner le témoignage ou
La démarche scientifique, si vous voulez, c'est effectivement sur la méthode. Donc ça va être une méthode de précision dans la restitution des données, de croisement de ces données entre elles, ce qu'on ne prend pas toujours le temps de faire. On pourrait faire une juxtaposition de portraits, mais on ne ferait pas, dans ce cas-là, une analyse. Donc il faut croiser, il faut objectiver ensuite avec le contexte. Donc il y a des éléments, des faits objectifs qui nous sont rapportés, qui sont connus sur l'histoire de la ville, etc. Et donc il faut pouvoir pondérer tout ce qui est dit. À l'aune de ça, on ne peut pas prendre pour argent comptant tous les souvenirs qui nous sont donnés. Donc il y a ce volet-là. Ensuite, est-ce que ça peut constituer un biais? Je ne pense pas que la démarche... Moi, je suis totalement indépendant dans ce projet, si vous voulez. Donc les habitants sont tout à fait libres d'exprimer leurs opinions. Et d'ailleurs, outre la simple nostalgie d'événements vécus, ils sont invités à exprimer la façon dont ils vivent ce projet auquel ils doivent faire face. Et en ce sens, même si beaucoup tiennent à évoquer cela, ce sont des projets de renouvellement qui concernent l'ensemble des habitants des deux communes, mais en réalité, tous ne sont pas impliqués de la même manière. Et en ce sens, il est important que, ça c'est ma mission que je me donne personnellement, que cette partie moins concernée peut-être puisse comprendre dans quelle mesure il y a, comme le disait M. Tepa, un déracinement, un arrachement, et donc c'est vécu comme une blessure, alors qu'eux, ils ne le voient comme une forme d'opportunité de faire table rase de certaines images qui collent à la peau, bon gré mal gré.
Mais est-ce que vous pensez, à la lumière de ce travail-là, qu'on sortira un jour justement de cette façon dont on efface la mémoire d'un quartier pour en construire un autre? Parce que finalement, on a beau la raconter, et vous en laisserez sans doute une trace passionnante, tout ça va s'effacer. Comment le vivent les habitants? Est-ce que vous sentez une certaine capacité à passer à autre chose? Ou au contraire, là, est-ce que ça risque d'être douloureux? Je vois qu'Emmanuel Ligny a peut-être une question aussi à poser. En tout cas, il réagira tout à l'heure.
Bah, on est inégaux, je pense, face à ce type d'événements dans la vie. On ne peut pas répondre comme ça. Comment réagissent les gens? C'est très difficile. Je pense que quelqu'un qui est dans une situation précaire, qui a besoin de retrouver ses repères dans le foyer familial à 35 ans parce qu'on a une période de creux, ne vit pas de la même manière que quelqu'un qui a un projet peut-être de partir vivre à l'étranger, qui a déjà des horizons. Donc pour beaucoup, Cléon, c'est vraiment... ou Saint-Aubin, en tout cas leur quartier, Feugret, Cléon Sud et autres, ce sont un lieu de repère, de solidarité, de ressources insoupçonnées. Et la crainte, souvent des plus jeunes, n'est pas tant une crainte pour eux-mêmes, mais une crainte pour leurs parents, qui, dans le phénomène de migration et d'insertion, ont dû composer leurs propres repères, leurs codes, et mettre en place une solidarité qui, je peux en témoigner aujourd'hui, est assez remarquable dans l'ensemble de ces territoires. Et l'idée, c'est de voir se perdre ces repères et cette solidarité, et dire comment va-t-on faire, comment vont faire nos parents pour continuer à vivre au quotidien comme ils le faisaient si bien.
We'll be right back.
Manuel Ligné, vous présentiez hier à l'occasion des Journées européennes du patrimoine un film documentaire que vous avez réalisé à l'occasion d'un long travail de collecte de la mémoire d'un quartier ouvrier de Grand-Queville. Il y a finalement beaucoup de choses qui font écho dans ce travail à ce que vient de nous expliquer Johan Younes Van Praat, à la fois sur la question de l'attachement, la construction du mémoire en lien avec un quartier proprement dit, sur la façon dont se croisent les mémoires ouvrières et les mémoires de migrants. D'où êtes-vous parti ? Est-ce qu'il s'agissait plutôt justement d'un travail sur la collecte ouvrière ou de la mémoire ouvrière, ou plutôt de la collecte d'une mémoire d'un quartier au sens large et de ce qui a fait l'histoire de ce quartier ?
Merci déjà pour l'invitation. Alors, d'où je suis parti, j'étais très attentif à ce qu'on dit Serge et Younes. Quand Serge évoque cette idée de « j'ai écrit ce témoignage pour mes enfants », j'ai écrit ce livre, c'est un livre que mais moi je suis l'un de ses enfants en fait, sauf que moi il n'y avait pas de livre d'écrit. Donc du coup je suis allé à la recherche de cette mémoire. Donc le premier lien en fait, c'est celui déjà d'une filiation, puisque l'histoire de cette cité elle est reliée à l'histoire de ma famille, qui est elle-même reliée à l'histoire de l'immigration portugaise. Ma mère est née dans cette cité ouvrière avec ses 13 frères et sœurs. Et puis cette filiation, elle est double aussi, puisque c'est l'histoire d'une communauté, d'un groupe social qui était directement rattaché à une usine, donc Saint-Gobain, qui s'est ensuite appelé Grande Paroisse, AZF, Borealis. Voilà, donc l'ancrage, il est finalement double, à la fois intime, familial et aussi sociétal.
Vous produisez un travail documentaire, que ce soit sous format photographique pardon, ou sous format audiovisuel. Comment est-ce qu'on entame un tel projet ? Vous êtes installé pendant plusieurs jours dans une chambre au cœur de ce quartier, et pour tenter de, comme ça, aller à la pêche des différents témoignages ?
Je suis allé effectivement au pied de cette usine, on peut dire ça comme ça. Je suis allé chez un logeur portugais au marché couvert, vraiment en totale promiscuité avec cette usine. C'était pour moi au départ, j'allais vraiment, c'était mettre la mémoire d'une certaine façon à l'épreuve, puisque cette cité, elle a été rasée à la fin des années 60. On parlait tout à l'heure de l'effacement de la mémoire. Je ne savais pas trop ce que j'allais croiser en fait. Est-ce que des gens pouvaient encore témoigner de cette époque ? Donc il y a eu une forme d'appel à témoignage que j'ai fait paraître dans la presse locale. Et puis effectivement un travail qu'on peut qualifier en immersion, d'aller au contact des gens. Et puis le fil après, il se déroule en fait.
Vous dites que la mémoire ouvrière, je vous cite, est finalement coincée entre deux grands romans, celle racontée par les industriels et face à celle-là, le grand roman raconté par les syndicats, le Parti communiste français. Est-ce que ce travail a finalement contribué à éclairer la façon dont s'est construit à l'échelle du quartier sur lequel vous avez travaillé cette mémoire ouvrière ?
C'est une question. En tout cas, c'est pas simple. C'est vrai, quand on parle de parole ouvrière, c'est toujours quelque chose de très compliqué à définir finalement. Qui parle pour ces gens-là ? Quand je parlais des deux grands romans, effectivement, une société comme Saint-Gobain, dès la fin des années 20, elle se dote d'une société de production audiovisuelle qui va lui servir à écrire son grand roman. Et on ne peut pas lui jeter la pierre. Voilà, elle a aussi participé aux grands travaux. À faire venir l'eau courante, etc. Bon, mais aussi de l'autre côté, du côté ouvrier, vous avez ce travail qui a été fait, parti communiste, syndical. Mais finalement, qu'est-ce que les gens ont à dire de ce vécu, de quoi peuvent-ils témoigner, et en quoi cela constitue aujourd'hui, en quoi c'est constitutif de ce que l'on est finalement. Comment cette filiation nous a construit.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, au travers de votre témoignage, enfin de votre initiative, se croisent un peu les deux approches que vous voyez auparavant, c'est-à-dire vous êtes vous engagé finalement à titre personnel par votre propre histoire dans ce travail-là, et puis dans une démarche documentaire qui n'est pas une démarche scientifique, mais qui nécessite un minimum de distance. Comment est-ce qu'on s'en sort et comment on chemine dans ce travail-là ?
Alors, il faut préciser que ce film, il s'est fait dans le cadre d'une recherche universitaire. Je l'ai fait dans le cadre d'une reprise d'études, un Master 2 à l'Université d'Évry. Master 2 Images et Société, qui dépend d'un département de sociologie d'ailleurs. Et il faut dire que l'université peut être assez... Peut prendre une forme de distance avec cette question de l'histoire personnelle. Il y a une forme de méfiance avec le fait de travailler, parce que cela pourrait sous-entendre qu'on n'aurait pas cette distance, ou en tout cas cette posture qui permettrait d'accéder à la vérité. Ce que disait Younes forcément m'a beaucoup parlé, puisque ce que je précise assez souvent à travers ce travail, c'est que pour moi, il n'était pas tant question de créer de la vérité que finalement du récit. Et à travers les témoignages que les gens nous apportent, je la confronte par contre au savoir académique. Donc, pour continuer sur la sociologie, un sociologue, pour des plus connus, pour le citer, Pierre Bourdieu, a dit que la sociologie était un sport de combat. Moi, je ne sais pas si c'est un sport de combat, mais je suis persuadé que c'est un sport collectif. Et que dans cette démarche de recherche croisée, la posture à la fois du scientifique, ou en tout cas... d'avoir cette méthode nécessaire pour confronter le témoignage et certaines données historiques, anthropologiques, elle se nourrit d'aller-retours. Et là, du coup, les choses deviennent absolument passionnantes entre ceux qu'on pourra appeler les grands témoins et d'autres qui vont pouvoir amener une forme de savoir qui participe à une forme de construction collective.
Vous avez présenté, comme je le disais récemment, le film issu de ce travail-là. Comment a-t-il été accueilli, et peut-être même avant cela, avant cette présentation, je dirais, publique, officielle, comment votre travail a-t-il éventuellement fait surgir des envies d'y participer, au contraire des réticences Est-ce que ça s'enrichit en pas à pas, ce type de collecte?
Alors, il a été plutôt bien accueilli. Même dans les réticences, il y a quelque chose d'assez fort finalement, puisqu'il y a des gens, par exemple, dans les enfants de ceux qui ont vécu cette cité, qui était un mode de vie tout à fait hors norme. Certains, je pense à l'un par exemple, Dominique, me dire ma mère, donc sa maman est décédée, et dire j'aurais voulu que maman soit là, qu'elle puisse évoquer ça, parce que moi j'aurais peur de trahir. Les mots sont, je trouve que c'est vraiment d'une grande force, parce que on voit bien que là, il y a la mesure que on ne peut pas dire n'importe quoi sur ce vécu, et que ce vécu, il a une réelle importance, pas uniquement pour une famille ou une autre, mais véritablement pour un groupe. Et c'est vrai que pour ma part, moi, je l'ai découvert, encore une fois, ce qu'a dit Serge, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très touchant, parce que moi, pour ma part, qu'il l'ait vécu comme l'enfant, enfin, en tout cas, le fils de c'est comme si je découvrais une planète inconnue, mais dont je suis originaire, quoi. C'est-à-dire que vous, tout à coup, c'est comme si vous compreniez mieux ce qui vous a constitué. Et notamment dans les rencontres, c'était assez étonnant. Je rencontrais de parfaits inconnus qui demandaient des nouvelles de ma famille, alors que moi, je ne savais rien d'eux. Et ça a été vraiment une rencontre assez forte dans ce travail.
Vous dites d'ailleurs que ça ne vous quitte plus aujourd'hui. Ça se termine un jour ce travail-là avec soi, sur soi-même aussi.
Alors c'est ça qui m'inquiète un peu plus, c'est que je l'ai fait donc dans le cadre de ce Master 2. Et puis c'est vrai que je pensais qu'après ce Master qui demande, m'a demandé pas mal d'énergie. Je pensais que ça allait s'arrêter. En fait, non, c'est vrai que je n'arrive pas à arrêter cette machine. Je retourne sur le terrain. Bon, moi, je suis assez loin. J'ai quelques kilomètres à faire, puisque je suis originaire de la région, mais maintenant, je suis sur la région nantaise. Mais oui, je poursuis ce travail. Sans trop savoir aujourd'hui si est-ce que ce sera un autre film, est-ce que ce sera des petits films, est-ce que ce sera plus de l'écriture. Mais c'est vrai que c'est... Il y a quelque chose d'enclenché qui se poursuit.
Et on peut parler rapidement du film. Quel format avez-vous adopté et comment est-ce qu'on monte un tel film? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas? Je sais que c'est difficile à dire en deux mots, mais malgré tout, c'est un format assez court.
C'est un format. Alors le format de l'université imposait un format de durée, non pas de thématique, ça bien évidemment. On avait le choix de son angle de soit thématique si on peut dire, mais de son sujet. Mais par contre, la durée était imposée, il fallait que ça fasse 15 minutes. Bon, du coup, c'est déjà, ça réduit quand même Alors la question du montage, le filmer, ça a été finalement assez vécu assez librement. Le montage était beaucoup plus compliqué parce que là, évoquer un tel sujet en 15 minutes en termes d'image, c'était beaucoup plus complexe. Donc j'ai d'autant plus que je voulais pas m'attacher à un personnage. Parce que souvent dans le film documentaire, la logique veut, dans le travail d'écriture, qu'on s'attache à une personne qui fait du coup le fil de l'histoire. Et moi, je ne voulais pas parler plus d'une personne ou d'une autre, parce que cette dimension collective, je la trouvais intéressante. Donc du coup, j'ai filmé avec le principe d'une voix off et comme un journal de recherche, comme on le fait d'ailleurs dans la recherche aussi universitaire. On prend des notes, voilà, tel jour, etc. Bon, ben, moi, je l'ai fait de cette façon-là. Donc on me suit... à travers voilà, ce qui reste de cette cité, mes interrogations, mes questionnements, puis les gens qui évoquent voilà, des souvenirs. Parce que cette question fragmentaire, je la trouve intéressante. Qu'est-ce qu'on fait de cette matière ? Parce qu'elle apparaît en apparence désordonnée, mais justement, c'est ça qui est passionnant. Je trouve qu'il y a ce côté livré de façon... ça échappe à quelque chose qui... Toujours cette exigence d'ordonner, de trier, et ben là, elle se livre à vous et faut voilà, vous pouvez pas la mettre. En tout cas, c'est plus complexe de l'ordonner. Voilà, du coup, j'ai fait ce montage comme un journal, véritablement comme un journal.
On voit en particulier défiler des photos face à la caméra que vous commentez plus ou moins en détail. Qu'est-ce que votre projet raconte aussi de ce quartier-là, du confort matériel qui s'y installe, enfin qui est installé, de la façon dont les gens ont vécu ici. Il y a une certaine joie qui se dégage, notamment des séries de photos que vous montrez.
Il y a beaucoup de thématiques. Moi, ça a demandé, par exemple, à aller rechercher du savoir, voilà, véritablement de la matière universitaire pour essayer de mieux comprendre. Ce qui est certain, c'est que ce qui m'a toujours questionné, notamment dans cette mémoire telle que l'évoquait ma famille, c'est qu'on pouvait tout à fait comprendre la dureté de la vie. Aujourd'hui, on vit une époque où on est... Voilà, 100% écolo, on se préoccupe de ces questions. Vivre en totale promiscuité avec une usine qui produit de l'engrais et qui dégage du sulfurique, bon, c'est quand même particulier. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un critiquer l'usine. Je n'ai jamais entendu quelqu'un, d'une certaine façon, dénoncer ces conditions et au contraire, évoquer une forme de vie fraternelle, communautaire, assez forte. Donc, si on peut dire ça, enfin, quand on voit les conditions de vie, on pense à l'enfer et les gens vous évoquent le paradis perdu. Donc j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi ce ressenti, pourquoi cette mémoire était finalement vécue de cette façon. Et là, c'est passionnant parce que vous penchez notamment sur toutes ces questions, tout ce qu'on a appelé les cantonnements, les baraquements, les taudis, la lutte contre l'insalubrité. Tout ça, c'est pas les mots de l'ouvrier, c'est les mots de d'autres, mais pas de l'ouvrier en tout cas. Et du coup, c'est passionnant de réinterroger cette question de l'habitat, parce que c'est vraiment de cela dont il est à la fois de l'habitat et du travail, puisque les cités avaient le nom de l'usine, et que c'est presque un plaisir de le rappeler, l'immigré, l'étranger, était un travailleur.
Alors pour ce travail, nous sommes allés aussi à la rencontre d'une dernière personne, Christine Terna, qui est rédactrice en chef de la revue Globule, qui a donc engagé un vaste travail de collecte aussi auprès notamment de femmes immigrées. Nous écoutons son témoignage.
Ce projet-là, il s'est inscrit parce que j'avais travaillé déjà avec une personne que j'ai beaucoup appréciée, qui s'appelle Yamina Omrani, qui était à la CAF. Je travaillais sur le quartier Sablière, Grammont. Donc Yamina a animé un groupe de parole avec des femmes du centre social de Grammont. Et moi, je lui ai proposé de pouvoir collecter les paroles de ce groupe, à la fois d'un point de vue individuel, chaque femme avec sa parole et son histoire, et à la fois qui est une espèce de dynamique collective autour de la création d'un livre. Donc c'était moi ce qui me tient à cœur en tant que personne et en tant aussi qu'association avec Globule, pour ceux qui connaissent. Donc l'idée, elle est vraiment venue de là. Je crois que ce que souhaitait Yamina avant tout, c'était d'ouvrir un lieu de parole, un espace de parole, parce que soit familialement, soit presque historiquement, c'était difficile pour elle de prendre la parole. Donc il y avait l'accès aussi à la langue, l'accès au travail collectif. Voilà, moi en fait je suis venue vraiment en complément pour garder en mémoire, pour faire trace. Et la proposition de ce premier livre, c'est un livret en fait, c'est une vingtaine de pages, mais j'ai proposé à Yamina et à ce groupe de femmes de les faire parler. J'ai choisi une thématique qui était d'un village à l'autre, du village d'origine. Le point commun, c'est toutes des femmes qui étaient des femmes de l'immigration. Et donc, elles sont venues et je me suis dit, elles sont riches d'une histoire, de quelque chose chacune, qui fait peut-être partie de notre histoire collective, de l'histoire de Garmont.
Alors Christine Ternat raconte en particulier, insiste sur un des éléments fondateurs du projet de la revue Globule et qui irriguait aussi ce type de collecte et d'édition auquel la revue participait, c'est le respect de la parole des personnes. Alors j'imagine que ça fait partie, évidemment, vous l'avez rapidement évoqué, des enjeux qui ont traversé vos travaux respectifs. Comment est-ce que, lorsqu'il s'agit de produire un film d'une durée relativement limitée, lorsqu'il s'agira de toute façon de transmettre le récit le fruit de 60 heures de récits en fait de paroles sous forme évidemment bien plus synthétique et Serge Tipa, lorsque on affronte son passé comme ça, enfin on fait face à son passé, qu'on se rend compte qu'il est très vaste et qu'il ne faut en garder qu'une une certaine matière. Alors évidemment vous étiez en train de travailler sur votre propre histoire, donc ce travail de respect de la parole se pose peut-être moins que pour vous, Younes et Emmanuel. Peut-être comment est-ce qu'est-ce qu'on pourrait retenir de vos travaux respectifs sur les principes un peu presque méthodologiques d'un travail de mémoire comme celui-là. Comment est-ce qu'on s'assure que la parole est respectée?
Alors je pense qu'il faut d'abord avoir conscience des enjeux dans lesquels on s'inscrit, effectivement avoir conscience de lorsqu'il s'agit d'une commande, eh bien, de qui elle provient, de quelles sont les intentions derrière chacun et les intérêts derrière chaque initiative. Et à partir de là, c'est vrai qu'on a un rôle un peu, en tout cas me concernant, de tampon, c'est-à-dire d'arriver à faire passer des idées de part et d'autre, entre l'émotionnel qui prend le dessus parfois dans certains témoignages parce que c'est une situation décrite comme très difficile, et puis d'autre part un projet qui s'inscrit dans le temps long du politique, donc on a l'immédiateté d'une part et le temps long d'autre part, et des différents projets de renouvellement urbain. Donc il faut arriver à faire preuve de compréhension, de d'honnêteté aussi, hein, et puis après d'essayer de garder une forme de représentativité, même si le mot représentativité est plus proche d'une approche statistique, ce qui n'est pas du tout le cas, mais avoir conscience que chacun puisse avoir eu son mot à dire et tout en même temps ne pas tout dire, parce qu'il y a des choses qui nous sont confiées aussi parfois, qui sont confiées dans le cadre d'une relation de confiance, mais qu'il n'y a pas vocation à être transmis derrière. Donc il faut aussi une forme de lucidité en se disant, mais qu'est-ce qui sert l'intérêt de la personne qui me confie cette parole? Est-ce qu'en retransmettant cette parole-là, je ne desserre pas son intérêt aussi? Donc effectivement, on fait des choix aussi. Et il faut composer. Il faut composer, malheureusement, ça c'est une réalité. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de solution miracle, je veux dire. Donc c'est une estimation, c'est une évaluation. Bon, c'est comme ça que je vois un peu la chose, quoi.
Emmanuel, peut-être vous souhaitiez...
Non, c'est vrai que c'est une question. Tout à l'heure, vous utilisiez le mot, je crois, dette morale. Je pense qu'il y a véritablement un enjeu à ce niveau-là. On nous confie quelque chose dans une relation de confiance et il faut... Il y a la question du travail scientifique, il y a la question du témoignage en lui-même, et puis après, il faut en faire une représentation. Il faut le partager, il faut une forme de média, une thèse, une étude, un livre, une exposition, que sais-je. Mais on ne peut pas livrer les choses de façon brute. Il y a un angle, un certain regard en fait que l'on va se donner, mais sur une matière qu'on nous a confiée. Donc c'est effectivement le juste équilibre entre rester l'auteur d'une démarche, parce que ce qui est fait par l'un ne sera pas fait de la même manière par l'autre. Mais en même temps, on nous confie quelque chose, voilà, et il faut trouver l'équilibre, voilà.
Oui, allez-y.
J'aimerais aussi en profiter pour rebondir sur ce qui a été dit, sur le lien qu'on peut avoir avec l'objet étudié. Est-ce que parce qu'on est extérieur à l'objet que l'on étudie, on serait plus compétent, plus objectif? C'est pas du tout le cas, parce qu'in fine, on a toujours un lien avec l'objet, que ce soit un lien de distance ou un lien de proximité. Et l'idée, c'est d'en avoir conscience et de travailler dans le sens inverse, j'ai envie de dire, pour dire les choses simplement. Et je pense aussi qu'à l'époque à laquelle nous vivons, on a tous un lien avec ce type de sujet qui est la mémoire. On est dans une société dont la norme est le changement en permanence. Il suffit de faire un peu de généalogie, on se rend compte que pendant des siècles, nos familles ont vécu dans les mêmes villes, Et puis, au cours du XXe siècle, on a cette espèce de transformation où les familles se dispersent. Et aujourd'hui, ça ne cesse de se faire. Donc, je pense qu'on a un besoin systématique de se réancrer dans une histoire et notamment aussi dans une histoire d'histoire commune. Et aujourd'hui, on a accès à des outils, que ce soit aujourd'hui, je crois qu'il y a même des applications qui vous permettent de retranscrire au quotidien des choses qui vont pouvoir être léguées en guise de souvenir à des héritiers. Vous avez des manuels de confection d'ouvrages pour l'histoire familiale, on a des sites de généalogie, on sait que la généalogie cartonne depuis plusieurs décennies. C'est révélateur d'un besoin, je pense, qui est aussi un symptôme. C'est symptomatique de quelque chose dans notre société.
Et vous avez senti, vous, lors de vos différents travaux, que les gens avaient envie de partager ça, de parler. Enfin, je me souviens aussi, dans votre film, Emmanuel, on voit, on est accueilli chez des gens qui pose des choses sur la table et on sent qu'il y a là l'envie de dire voilà, j'ai envie de maintenant de mettre ça, que de vous le dire, que ce soit su et qu'on en garde une trace.
Oui, bah sur cette scène-là, c'est cette rencontre avec Pierre, un des témoins qui met des photographies. Et puis justement, c'est une rencontre qui est où il me dit mais à un moment donné, je ne sais pas par quoi commencer. En fait, il me pose toutes les photographies et puis face à presque cet afflux de mémoire, comment aborder cette question. En tout cas, pour revenir aussi sur ce qui est au cœur là, sur ce retour de mémoire, si on peut dire. Enfin, en tout cas, là, très clairement, on voit aussi qu'en fond, on parle beaucoup d'exil sur toute cette que ce soit le développement industriel ou en toile de fond, on a quand même toujours la rupture. Bon, en l'occurrence, moi, le sujet sur lequel j'ai travaillé, il y a la rupture avec le pays d'origine et puis la rupture avec l'habitat qui fondait véritablement la mémoire collective et qu'on a rasée et dont les gens disent très souvent « j'aurais voulu qu'il reste ne serait-ce qu'une maison témoin pour revoir la maison de mon enfance » alors que c'était voilà, les maisons les plus modestes qui soient. Mais véritablement, il fallait c'est comme si ce lieu de mémoire manquait à tous ces gens.
Serge Tipa, vous êtes retourné, si je ne me trompe pas, à Tunis pour voir la maison où vous avez habité.
Oui, effectivement, oui.
Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on décide? C'était après ce travail d'écriture d'ailleurs, hein, ou avant ça?
Avant, oui. Oui. Bah, c'était un petit peu bizarre, pour tout dire. De toute façon, la vérité qu'on suppose avoir au fond du cerveau, bah, dès qu'on arrive, les images vous assaillent. Et cette vérité, elle est bousculée parce que la ville a changé, parce que les gens ont changé. Malgré tout, on retrouve des endroits, on retrouve des odeurs, des sensations qui, ça, c'est, ne vous quittent jamais. Et ça s'est très bien passé, en fait, mais c'était quand même très, très bizarre, d'autant que j'avais amené ma mère avec moi pour lui faire, on va dire, entre guillemets, un voyage de redécouverte. Bon, effectivement... elle a été un petit peu déçue parce que c'était plus du tout le Tunis de son enfance, de sa jeunesse. C'était un Tunis un peu différent. Mais malgré tout, elle s'est sentie à l'aise tout de suite. Et même maintenant, elle a 87 ans. Et quand elle parle de la Tunisie, ça brille toujours dans ses yeux. Donc, c'est vrai que j'entendais mes deux compagnons de radio parler de mémoire et de vérité. C'est vrai que moi, c'est ma vérité, c'est peut-être pas la vérité, mais c'est celle dont je me souviens. Et ce voyage de retour a été quand même assez fort parce que on s'est senti à l'aise tout de suite.